Bonjour Raphaël Bourgois et bonjour à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Licencié pour un retweet. Pour les néophytes, ça veut dire virer pour avoir partagé avec sa liste d'abonnés un message de 140 signes déjà posté sur le site Twitter. C'est ce qui est arrivé à un joueur de basket de l'équipe de Rouen au mois de janvier. Nous sommes 2 jours après les attentats contre Charlie Hebdo. Le sportif partage avec son réseau le message suivant. « Je ne suis pas Charlie, je suis Ahmed, le policier mort. Charlie a ridiculisé ma foi et je suis mort en défendant son droit de le faire. » Le tweet paraphrase au passage le mot faussement attribué à Voltaire « Je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire. » La référence n'émeut pas beaucoup le club sportif qui estime son image atteinte par la prise de position du joueur. Que le joueur en question soit chrétien et donc pas très susceptible de soutenir les djihadistes ne change pas son point de vue non plus. Le basketteur est licencié pour non-respect des clauses de son contrat de travail, comme le rapporte le site Metro News. Dans les 10 jours qui ont suivi les attentats, selon Amnesty International, au moins 69 personnes ont été arrêtées et poursuivies pour apologie du terrorisme. Le 20 janvier, le syndicat de la magistrature a même appelé à résister à l'injonction de la répression immédiate. Parmi les individus poursuivis, de nombreux se sont avérés fous, en état d'ébriété ou des jeunes dans la pure provocation. D'autres, bien sûr, étaient des criminels, des individus dangereux, dont l'arrestation et la condamnation se sont révélées absolument nécessaires. Ces procédures judiciaires ont été les premières à se dérouler en vertu de la loi de novembre 2014 contre le terrorisme qui prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans et une amende de 45 000 euros, la peine étant de 7 ans maximum et l'amende pouvant aller jusqu'à 100 000 euros si l'infraction est commise sur, je cite, « un service de communication au public en ligne ». Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, 3 accusés d'apologie du terrorisme racontent, dont un lourdement condamné, un syndicaliste et un enfant. C'est jusqu'à 14h sur France Culture et c'est un récit d'Olivier Minot.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Oui, c'est Chabim Barak. Je suis libraire depuis 24 ans. Et oui, c'était le mois de janvier. La police, ils sont présentés comme contrôle dans la librairie. Alors, ils m'ont dit, monsieur, il y a quelqu'un qui nous a téléphoné. Il a dit comme quoi que vous avez des drapeaux de l'État islamique. C'est pour ça qu'on est venu. Mais il est bien marqué dans ce drapeau, il n'y a pas d'autre dieu qui est un seul Dieu, et Mohammed, son envoyé. Ça, c'est une attestation de tous les musulmans sur la terre. Normalement, ce drapeau, ce n'est pas à eux. Le drapeau, c'est à notre prophète. Ils m'ont demandé les papiers. J'ai dit, est-ce que vous ne me connaissez pas? Tout le monde m'appelle ici Bin Laden. Oui, c'est vrai. Tout le monde m'appelle Bin Laden et... je ne peux pas me battre contre tout le monde. Alors j'ai accepté ce surnom-là. Alors ils sont partis. Et après ils sont revenus en renfort. Ils sont venus avec les armes, les bombes, crémogènes, je ne sais pas quoi. Pour ramener Bin Laden en prison. Ils ont fouillé dans la cave, dans la librairie, dans le camion. J'ai demandé qu'est-ce que vous cherchez. Ils m'ont dit on cherche des armes. Alors maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui a téléphoné pour le drapeau. Maintenant, c'est des armes. Quand ils ont fini de fouiller, j'ai dit non, il me reste encore 2 dépôts à fouiller. Après, il m'a dit, qu'est-ce que vous avez dans ce dépôt-là? J'ai dit Kalachnikov. Ah ben, ils sont partis, ils n'ont rien trouvé.
Vous, vous leur aviez dit pour vous moquer d'eux?
Mais c'est eux qui se moquent de moi. Ça fait 24 ans que je travaille ici en France. Aujourd'hui, ils m'accusent comme quoi, qu'ils cherchent des armes. j'ai jamais arrêté de travailler. Mais eux, ils disent non, vous êtes terroriste. Ça veut dire quoi? Ils m'ont ramené au commissariat. Et ils m'ont dit que vous avez dit que je suis Ben Laden, que nous, les barbiers, on va vous vaincre, qu'il a commencé à tirer sa barbe comme ça. Et j'ai dormi en prison. Je suis passé en justice. Et ils m'ont relâché. Ils m'ont condamné un an de sursis. Et un an, j'exerce plus mon métier de libraire. Maintenant, j'ai arrêté de travailler et j'arrive pas à trouver un autre travail. Je me suis inscrit à l'ERISA parce que je suis obligé. Avec l'ERISA, on se débrouille. Et c'est tout. Salam alaikum. Voilà.
Alors, je suis dans la rue des Postes, une rue populaire du quartier Oisen, dans le sud de Lille. Et c'est ici qu'est située la librairie Mbarek, qui a été reprise par quelqu'un d'autre, mais qui continue son activité. Juste en face de la librairie, il y a le bar de l'Alliance, un café avec des petites chaises posées à même le trottoir. Et plein de monde se réunit, ça boit des bières, du coca et du café.
Moi, comme j'habite en face, j'assiste à la scène directement. Il y avait allez, facilement 3 voitures d'Alavac et 4 hommes cagoulés, lourdement armés, qui sont arrivés, qui ont perquisitionné les lieux. Et après, les lieux, ils ont été fermés pendant, je sais pas, pendant une durée de une semaine jusqu'à 2 semaines. Il y avait des gens qui avaient des soupçons sur lui. Sa femme, elle porte le voile intégral. On voit juste ses yeux. À un certain moment, quand c'est comme ça, tu te dis, il y a un petit problème, il y a un petit souci. Moi, je suis d'origine musulmane. Hein. Je sais c'est quoi la religion. Il est le seul libraire à qui ça s'est passé. Hein. À côté, il y a une librairie à côté. Il y a là-bas aussi, il y a une autre librairie. C'est des librairies religieuses. Mais ça tombe que sur lui parce que le gars, il a des signes distinctifs. Il a une grosse barbe, une femme voilée. C'est de l'islam intégriste. C'est-à-dire il est vraiment radical dans ses propos et tout. Ce qui fait que on commence à se poser des questions. Même nous qui sommes de religion musulmane, on commence à se poser des questions.
Mais les questions, elles étaient là déjà avant ce qui s'est passé?
Non. C'est des questions qui n'existaient pas avant. Mais après, quand on voit le truc qui s'est passé, on dit... Le gars, il a quelque chose à se reprocher.
C'est de la flûte, c'est de la paranoïa, les gens de parano, tu vois comment? Peut-être qu'il avait un truc à rapprocher, mais on sait pas.
Non, ce petit gitanique avec lui, il va faire ses courses à Auchan. Une ancienne française, à Cartier.
Tu peux pas savoir, tu vois. Tu peux pas compter sur la personnalité.
Qui, vous parlez de qui?
On parle d'un libraire là-bas.
Ah oui, c'est islamiste.
Il a mal parlé aux policiers. Il fallait pas parler comme ça, on parle pas comme ça.
Ah, c'est peut-être qu'il
a... Ouais,
c'est son caractère, après.
Oui, mais attends, c'est l'État, quel caractère? Il va en Algérie,
ils l'ont arrêté, ils l'ont relâché.
Tu vas insulter les flics.
Attends, écoute-moi, ils sont pas mieux. Attends, c'est ce qu'ils m'ont fait là, dans l'entrée. Je vais pas rentrer dans les détails. Pouf, je leur crache dessus même, c'est un petit savoir. Voilà, je leur crache dessus. Il y a des moments, ils se servent des gens pour pouvoir faire des trucs en politique, c'est pénible.
Ils attisent les flammes, quelque part. Alors que la vérité, il y en a un qui dit comme ça, l'autre il dit comme ça, c'est pas évident.
Tu peux pas
la vérité, c'est pas... Cette histoire de Paris, etc., ça a chauffé un peu les cœurs, quelque part, quoi. Mais sinon, non, si c'était un terroriste ou un truc, on l'aurait su, quoi. Puis on n'a pas de terroristes ici, non. Il n'y en a pas. Il y en a combien? Il y en a 0,0001% de la population musulmane. Ça, on va pas incréduler les musulmans par rapport à Merad ou un truc comme ça. Hein. Les bricoleurs, là. Enfin, un bricoleur, mais dangereux.
Comment il va faire monter les sondages au Lantif, hein? S'il n'y a rien à faire, il va fabriquer des trucs à faire. Hein,
ouais.
Tu as compris ce que je voulais dire?
Non, mais moi, un vieux à la limite, ça va. Un senior comme moi, ça va. Un gars, il a 25 ans, il n'a pas de travail, il n'a rien. Attends, c'est normal qu'on fabrique des gens comme ça aussi. Ils n'ont rien. Alors le bonhomme, il n'a rien, qu'est-ce qu'il fait? Il traîne, il apprend des mauvaises choses. Mauvaise fréquentation, il casse, il vole, la police repère, et puis voilà. Bon, c'est vrai, il faut se réveiller de bonne heure aussi pour trouver du travail, ça c'est certain. Mais il faut encourager les gens. Il faut les mettre un peu à l'ordre aussi. C'est le bordel. C'est le bordel total.
Nous, on a tout fait pour être intégré en France. Mais intégré, ça ne veut pas dire soumis. Parce que moi, je suis parti en Angleterre. Et j'étais habillé vraiment en le chapeau afghan, avec les vêtements pakistanais. Et j'ai marché dans la rue comme ça. Mais là-bas, non, les gens, ils marchent droit. Ils marchent droit, ils te calculent même pas est-ce que vous êtes à côté de lui ou pas. Et moi, j'aimerais bien comment les musulmans, ils vivent en Angleterre. Parce qu'ils sont libres, mieux que la Mecque. Et si en France, on ne peut pas vivre notre islam. Ici, nous sommes écrasés par la peur. Si eux, ils ne croient pas, c'est leur problème. Mais moi, si je crois, c'est mon problème à moi. Mais pourquoi ils veulent que je devienne comme eux? Jamais de la vie. Mes enfants, moi, ils se considèrent comme quoi que c'est des Français. Mais s'ils voient la France toujours en train d'écraser leur père et leur mère, et ils vont vraiment être en colère contre la France. Il faut qu'ils prennent soin de nous. Il ne faut pas qu'ils nous crasent, ce n'est pas bien. Nous sommes ses enfants. Et si elle ne veut pas de nous, alors il faut qu'il nous fait partir dans les bateaux, je ne sais pas moi.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Katabi Karim. Je suis délégué syndical chez Bombardier Transport. C'est une usine qui fabrique des trains. Moi, le 7 janvier, j'avais déjà déclenché à Bombardier ce qu'on appelle un danger grave et imminent, un DGI. Le lendemain, quand je suis arrivé, je suis passé par un atelier, j'ai pointé. Et je suis tombé sur un groupe de salariés qui étaient en train de parler de ce qui s'était passé. Et ils faisaient l'amalgame, en fait. C'est des musulmans qui ont fait ça. Étant donné que je suis aussi de confession musulmane, je me suis arrêté et j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Bien sûr, j'ai bien précisé que tuer quelqu'un par rapport à des dessins, c'est gravissime, que j'étais pas d'accord avec ce qui s'était passé. Et y a des gens qui venaient, par exemple, et puis qui s'incrustaient un peu dans la conversation, entre guillemets, et puis sortaient des choses comme dans les mosquées avec les islamistes qui appellent au meurtre. Il y avait aussi un salarié qui m'avait dit aussi pourquoi on ne condamnait pas. Je lui ai dit premièrement, je me sens pas concerné par ce qu'ils ont fait ces gens-là. Pour moi, c'est pas des musulmans qui ont fait ces choses-là. Et que j'avais pas moi à condamner, et que les musulmans n'avaient pas à condamner. Et je me suis heurté à des gens qui me disaient « Mais ils se réclamaient les mêmes droits dans ton pays. » Là, je comprenais pas. Et si on faisait les mêmes choses dans ton pays? Alors là, je me suis dit « Mais c'est, je suis où, là? Moi, je suis français. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter, les gars ?» Moi, je pensais qu'avec toutes les choses qui m'avaient été dites, qui étaient quand même un peu racistes, je me suis dit, c'est l'émotion. C'est le lendemain d'une atrocité qui a choqué énormément de gens. Je me suis dit, avec le recul, je pensais que c'était pas pensé. C'est pour ça que je me suis pas plaint, en fait, en gros. Vers 15h45, je reçois un coup de fil de la direction qui souhaite me voir, sans me donner le motif. J'y vais, je rentre. Bizarrement, je vois même le directeur. Le directeur n'a rien à faire là. Et on me dit, oui, vous auriez eu une altercation avec des gens, vous avez eu des propos assez déplacés et tout. Moi, je suis pas d'accord. Et puis on veut me remettre une lettre, ce que je refuse. Donc on me l'a envoyé par courrier et puis on m'avait mis en mise à pied. C'est net, vous êtes mis à pied et vous êtes convoqué à votre entretien préalable pour répondre des accusations qu'il y a contre vous. Pour soi-disant des propos choquants et inacceptables. À l'entretien, le RH qui est en face de moi, il me dit que j'aurais dit que j'étais d'accord avec ce qu'ils avaient fait, ce qui est totalement faux, et que j'aurais voulu être terroriste pour les tuer à la place des terroristes. Alors vous imaginez que vous vous dites, j'ai des témoignages comme ça contre moi. Et bien sûr, la presse, de plus en plus, ça commence à s'en emparer, cette affaire. Et d'un seul coup, le mot magique, il apparaît. Qui apparaît dans certains articles, comme quoi la direction elle a dit que j'ai fait des propos choquants et inacceptables, faisant l'apologie du terrorisme. Et là, waouh. Là, c'est encore pire. Là, je me dis, je me dis, c'est pour tout ce que j'ai fait dans Bombardier et tout ce que j'ai mis en lumière. Parce que depuis que je suis au MOPS HSCT et que je suis aussi secrétaire, j'ai déterré énormément d'affaires que mon employeur cherche aussi à camoufler. Donc c'est mon employeur qui s'est dit, je veux me débarrasser d'un délégué gênant, qui sait beaucoup de choses. Et ils ont été jusqu'au sadisme d'utiliser un fait dramatique qui a choqué toute la France pour pouvoir essayer de se débarrasser de moi, c'est tout, c'est mon sentiment. L'entretien préalable, c'était le 20 janvier. Le 30 janvier, on convoque le CE. Ben, le CE, vous avez trois syndicats qui votent pour mon licenciement. Cette décision, vous sentez qu'ils l'ont prise sans avoir vos explications, sans vous écouter. Ils vous écoutent sans vous écouter, ils ne vous posent aucune question. Vous avez la CGT qui dit ouvertement qu'ils se sont réunis ensemble et qu'ils ont voté, c'est le vote qu'ils avaient fait. Ne pas avoir entendu d'avoir ma version, c'est quand même grave. Le vote y est fait, il y a 5 contre mon licenciement et 3 pour.
Donc les 5 contre, c'est les 5 voix de sud de votre syndicat.
Oui. Le CE, c'est une voix consultative, mais n'a aucun pouvoir d'arrêter ou continuer la procédure. De là, j'apprends par des journalistes que la direction continue et saisit l'inspection du travail. Je suis convoqué par l'inspection du travail pour une enquête contradictoire. Je m'y rends, toujours avec appréhension, je vous dis honnêtement, parce que je me suis dit, vous paranoïez un petit peu quand même. Faut être clair. Vous vous dites, j'ai rien à me reprocher, mais aujourd'hui, combien d'innocents qui sont enfermés quand on n'a pas commis certaines choses et qu'au bout de X années, on se rend compte qu'on a mis un innocent en prison, les outreaux, tout ça. Alors l'employeur, dans les médias, il dit qu'il a fait une enquête interne, et mais une enquête interne à charge. C'est ce qu'il a oublié de dire. Il a oublié de dire ce mot. Enquête interne à charge contre M. Katabi. Donc, l'inspection du travail a mené son enquête contradictoire. Elle a entendu tout le monde et compagnie, et puis ça a duré quand même un bon mois. J'ai été convoqué le 10 février, ouais. Elle a rendu sa décision le 9 mars. J'ai reçu le 10 mars la décision de l'inspection du travail qui refuse mon licenciement. Il y a encore des possibilités pour mon employeur de continuer à me nuire. Ce que je doute pas qu'il fera. Je passe plus une nuit de bonne nuit, comme j'en passais avant. Je me réveille, j'arrive plus. J'ai fait des rêves où tout le monde il me montrait du doigt et disait « voilà, c'est lui ». Des cauchemars plutôt. Si vous parlez avec des gens, tout le monde vous le dira que je suis quelqu'un de... Je suis un bloc, je suis un combattant, j'ai pas peur. Mais franchement, cette histoire-là, elle m'a brisé. C'est la première fois que ça faisait des années que j'avais pas versé de larmes ou des choses comme ça. J'étais en bas dans le gouffre. Je sens que cette histoire-là, je sortirai jamais indemne. Moi, ce qui me choque, véritablement, c'est comment des gens du jour au lendemain, par rapport à un événement X, peuvent aujourd'hui penser que des musulmans qu'ils côtoient, tous les jours, à qui ils disaient bonjour, c'est leur voisin, c'est leur truc, ils arrivent à avoir de la méfiance, et ils arrivent à se dire qu'on est capable, tellement on leur rabote le cerveau, qu'on est capable du jour au lendemain de prendre une calache, entre guillemets, et d'atteindre à leur vie parce qu'ils sont pas de la même religion que nous. Moi, je vous le dis honnêtement, pendant ces mois et tout, j'ai pensé, je me suis senti dans la peau, et je pèse mes mots, je me suis senti dans la peau d'un juif des années 30.
Coyol, dans l'Aisne.
J'ai pas eu le temps de sonner. Bonjour.
Olivier. Bonjour. Enchanté, Eric, asseyez-vous. Je vais parler avec Eman, peut-être.
Ouais.
Alors, comment tu t'appelles ?
Eman.
T'as quel âge ?
9 ans. La dernière fois, à la cantine, quand on faisait la minute de silence pour Charlie Hebdo, il y a Evan, il disait n'importe quoi. Du coup, ensuite, quand on était à la cantine, et quand sa mère elle est venue, et bah, lui, il lui a raconté que j'ai parlé pendant une minute de silence et je disais que je m'en foutais de Charlie Hebdo et tout ça. Et du coup, il y a sa mère, elle est venue à table, elle m'a crié dessus. Et ensuite, elle a dit à la directrice de la cantine qu'elle allait voir la gendarmerie. Du coup, j'ai été convoquée. Et quand j'étais là-bas, il y a le policier, il m'a posé plein de questions et tout ça. Ça gênait un peu avec tous les policiers autour et tout ça. Et puis voilà, c'est fini.
Et t'ont posé quoi comme question ?
Bah, par exemple, est-ce que c'est vrai que tu as dit « Vive le camp » ou « À la coupale » pendant la minute de silence ? Le reste, j'ai oublié.
Et toi, t'as dit « À la Wakbar » ou « Vive le Coran » pendant ?
Non.
Moi, j'ai appris ça par l'appel des gendarmes à 10h du matin, le jour de la convocation. Vous êtes convoqué aujourd'hui à 15h avec votre fils à la gendarmerie. Donc on se dit, ben, qu'est-ce qu'il a fait ? 9 ans, c'était peut-être un peu tôt quand même pour aller aux gendarmes. Qu'est-ce qui nous... Ben voilà, on s'inquiète un petit peu, on s'attend au pire. Je lui ai demandé si s'était passé quelque chose pendant la minute de silence. Donc il m'a dit que non, qu'il avait eu un comportement normal, voilà. Ben voilà, la gendarmerie, on nous dit, voilà, votre fils il est accusé d'avoir dit « Allahu Akbar, vive le Coran » pendant la minute de silence. Quand on a entendu ça, j'ai laissé mon fils s'exprimer. Il a indiqué clairement qu'il n'avait pas perturbé la minute de silence. À ce moment-là, la situation elle nous paraissait, moi, elle m'a paru tellement ridicule. Mais bon, ben voilà, on a dû faire face aux gendarmes avec des questions. Qu'est-ce que vous pensez de Charlie ? Est-ce que vous êtes Charlie ? Et pourquoi vous ne serez pas Charlie ? Etc. Ben, pour moi, à mon fils, dans un premier temps, à moi par la suite.
Ah, ils ont demandé à votre fils est-ce qu'il était Charlie ?
Oui. Et il a dit non. Il a dit non parce que dans notre foyer, on estime que Charlie contribuait à générer des amalgames et à stigmatiser toute une communauté. Voilà, c'est des gens qu'on appréciait pas plus que ça. Clairement, nous n'étions pas Charlie pour cette raison-là. Après, ça n'empêche pas qu'on est contre toute forme de violence, d'assassinat. Bon, voilà. Donc moi, le lendemain matin, j'ai été à l'école, je me suis rapproché du directeur pour savoir ce qui se passait. Il me dit, je comprends pas, j'ai été informé de cette histoire également, mais je comprends pas parce qu'Eman, il a très bien participé à tous les travaux périscolaires et enfin, qui ont suivi les assassinats de Charlie Hebdo. Je suis moi-même convoqué mardi à la gendarmerie. Apparemment, ça vient de la cantine. Donc voilà ce que nous dit le directeur. Après, j'ai pas plus de renseignements que ça, et jusqu'au jour où ça a commencé à être un peu médiatisé, et j'ai lu les propos du procureur de la République de Soissons, et je les ai entendus, où il dit clairement, personne n'est là pour dire qu'il n'a pas respecté la minute de silence. Donc, une histoire de fou, le procureur de la République qui vient défendre un gamin de 9 ans, j'attends de savoir qu'est-ce qui est passé dans la tête de ces gens-là, de ces adultes-là, de pourquoi ils ont fait comme ça. Après, je pense que ça pose des questions aussi vis-à-vis de personnel qui encadre des enfants, des petits-enfants, et d'autres personnels qui encadrent ces encadrants-là. Je pense que dans la situation de la mairie, le silence, c'est ce qu'ils ont de mieux à faire et de plus stratégique. C'est une mairie Front National, c'est eux qui encadrent les cantines. Voilà. Donc je vais pas non plus les provoquer, hein. J'ai pas envie qu'ils fassent le port obligatoire à la cantine, par exemple. Ça nous compliquerait un petit peu la vie.
C'est des choses dont vous avez peur ?
C'est des choses, on a entendu ça hier sur une ville comme Chalon-sur-Saône. C'est quand même pas une petite ville. Donc j'imagine toute la communauté là-bas musulmane qui ne mange pas de porc ou qui ne mange pas certains types d'aliments qui vont te confronter à des gros problèmes. Il est un des meilleurs élèves de sa classe, de loin. Il est le délégué de classe, il ne pose pas de problème. Il ne méritait pas ça. Ça l'a saoulé. Je sais pas comment il va avaler cette histoire-là. Je sais pas quand est-ce qu'il la recrachera ni comment il la recrachera. Le point positif, c'est qu'il a pu voir que sa famille était derrière lui tout de suite, immédiatement. Voilà, je suis né en France, français. J'ai un prénom français. En l'an 2000, j'avais 20 ans, 22 ans. Je pensais pas que ça tournerait comme ça. Je pensais que la politique de la France, pour moi, c'était les droits de l'homme. Aujourd'hui, on est en 2015, on a un Front National qui est le premier parti de France. Je suis dans une ville avec un maire Front National. Dans les cours de récré, mes gamins de 8-9 ans, ils entendent « Vive les Arabes morts, les musulmans, faut les tuer », etc. Donc, je regarde le passé de la France et je me dis « faut vite changer de région, me rapprocher d'une frontière ». Et puis vu la situation dans les pays arabes, peut-être essayer d'avoir un passeport sud-américain. Fake thug, no love, you get the slug, CB4 gusto, your luck low, I didn't know till I was drunk though, you freak niggas played out, get fucked and ate out, prostitute turned bitch, I got the gauge out, 96 ways I made out, Montana way, the good, F-E-L-L-A, verbal AK spray, dip detaching, jump out the range, empty out the ashtray, a glass of Zay, making mad cashes, clay, red dot plots, murder schemes, 32 shotguns, regulate with my thun, 17 rocks gleam for one ring, they let me let y'all niggas know one thing, it's one life, one love, so there can only be one king. The highlights of living, Vegas style, roll dice and linen, and terror spinning on millenniums. 20G bets, I'm winning them, threats, I'm sending them. Lex with TV sets the minimum. Ill sex, adrenaline, party with villains. A case of demisec, they chase the henny, wet any click. With the semi-tech, who wanted diamonds.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Apologie du Terrorisme, un reportage d'Olivier Minot, réalisé par Marie Placet. Merci à Mbarek, à Karim, à Eric, à Eman. Et à Abdelaziz Chambi, réactions, commentaires, suggestions, tout ce que vous voulez nous dire ou savoir, franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à partager notre émission si elle vous a intéressé, Facebook et Twitter, nous y avons des comptes, des pages et tout ce que vous voulez. Voilà, en attendant de vous lire, je vous souhaite une bonne après-midi sur France Culture. Restez à l'écoute de notre chaîne. Il n'y a pas que les pieds sur terre.